Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons aujourd'hui à l'étude numéro 5 et toujours de cette très importante série, le fondement de la rédemption. Évidemment, cette série sera très longue. Et je ne sais pas si j'arriverai au bout, puisque nous faisons pour l'instant tout l'Ancien Testament. Ensuite, nous parcourirons tout le Nouveau Testament jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est dans les mains du Seigneur, s'il veut bien me donner la vie jusque-là. C'est lui le patron. Ce matin, je demande que l'Esprit Saint m'inspire, me guide, car je ne pourrai jamais le faire sans son aide. Impossible. Merci Seigneur. Chers amis, le titre pour aujourd'hui sera « L'Alliance divine » avec Noé. Après le déluge, une nouvelle période s'ouvre pour l'humanité. Tout de suite, Dieu énonce les principes directeurs qui devront gouverner l'avenir. L'alliance de Dieu avec Noé constitue le fondement de toute histoire future de la nature, de l'humanité et du salut. Premièrement, nous avons l'alliance avec la nature. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Notez Genèse chapitre 8 versets 21 et 22, ainsi que le chapitre 9, versets 11 et 15. La raison en est remarquable, car l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, version Darby. Ainsi, ce qui avait été auparavant une raison de détruire, Genèse chapitre 6, verset 5, devient maintenant la vraie raison d'épargner l'homme. Maintenant commence une période de patience divine. Notez Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 15 à 17, ainsi que le chapitre 17, verset 30. Noé était le porteur de repos. Son nom vient de Nuach, se reposer. Notez Exode chapitre 20 verset 11 et Deutéronome chapitre 5 verset 14. En même temps, le droit royal de l'homme sur la terre est confirmé. Deuxièmement, nous avons l'établissement de l'autorité humaine. Bien que soit confirmée l'autorité de l'homme sur la création terrestre, l'harmonie originelle y est rompue, spécialement dans le règne animal. Maintenant, c'est force, oppression, conflit. Dans le jardin, la majesté spirituelle du roi terrestre avait, dans un certain sens, magnifiquement tenu le monde animal. Maintenant, sa seigneurie n'est acceptée que par la crainte, par la timidité, par la terreur paralysante. Cela s'explique pleinement dans le domaine de la nutrition. L'homme a désormais le droit de tuer les animaux pour se nourrir, exception faite du sang. Je répète, exception faite du sang. Et je vous dirai quelque chose là, car si mon père avait simplement pu avoir un minimum d'humilité et d'écouter sa femme, une sainte épouse, qu'il a battue, maltraitée et qui s'est mariée 5 fois, eh bien, il aurait pu comprendre quelque chose au sujet du sang. Écoutez bien cela. Les rabbins rattachent à cette alliance avec Noé leur tradition de la doctrine des 7 commandements dits noamiques, valables pour tout homme, y compris le non-juif. Ce sont la prohibition du blasphème, de l'idolâtrie, du crime, du vol, de l'inceste, de la désobéissance à l'autorité, de l'emploi du sang, comme nourriture, le boudin, etc. Il avait même bu du sang de bœuf tout frais. Ces ordonnances furent à la base de la délibération du Concile de Jérusalem et de l'avis fraternel donné aux chrétiens, à tous les chrétiens, à cette occasion-là. Notez Actes des Apôtres, chapitre 15, spécialement les versets 20 et 21. En fait, ce droit, l'homme se l'était déjà arrogé bien plus tôt. Maintenant, Dieu le sanctionne. Genèse chapitre 9, versets 2 à 5. À ce pouvoir de l'homme sur la nature est lié un droit de l'homme sur l'homme. Oui, de l'homme sur l'homme. C'est donc assez sérieux. Donc, chers amis, tout cela, vous l'avez bien compris, est de tout ce qu'il y a de plus sérieux. Je répète, nous avons deuxièmement l'établissement de l'autorité humaine. Et je vous en ai parlé jusqu'à ce problème du sang. Aussi, je répéterai la dernière phrase pour continuer. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera également versé. Genèse chapitre 9, verset 6. C'est l'introduction de la peine capitale pour le meurtrier. Cela inclut aussi la supervision de l'individu par la communauté et l'établissement de cours législatives et de peines légales. Vous savez que ces jours-ci, il y a le jugement de ces 6 individus qui ont violé, et même avec une barre de fer rouillée, jusqu'à ce que mort s'en suive, une jeune fille en Inde. Et pour la première fois dans ce pays, il y a eu une révolte générale. Aucun avocat du pays a voulu défendre ces violeurs. De ce fait, ils sont condamnés à mort. Ce n'est rien moins que l'introduction, chers amis, du pouvoir gouvernemental. Romains chapitre 13, versets 1 à 6, et la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 13 à 17, et de la magistrature. La peine de mort pour le meurtrier étant basée sur la ressemblance de la victime à l'image de Dieu. Genèse chapitre 9, verset 6. L'exercice de la justice doit être pratiqué sur le principe de la reconnaissance de cette ressemblance, donc sur la reconnaissance de la dignité mentale et spirituelle de l'homme. L'autorité devra donc dépendre, non de la force brutale, mais du discernement du droit naturel divinement garanti dans la société humaine. C'est ainsi seulement que le magistrat devient le représentant de la justice et le serviteur de Dieu au bénéfice de tous. Romains chapitre 13 verset 4. Cette nouvelle disposition instituant des autorités humaines était en même temps une condition indispensable à la préservation de l'humanité. Si Dieu, tenant compte de la perversion intérieure naturelle de l'homme, renonçait d'avance à recourir ultérieurement à un nouveau déluge exterminateur, il devait, par l'introduction de l'ordre et de la justice, établir une barrière face à l'expansion du péché et poser ainsi les bases de l'ordre civil et du développement politique. Ordre naturel, gouvernemental et civil font donc un tout ensemble, mais ne deviennent possibles qu'à travers un quatrième ordre qui sera, quatrièmement, l'ordonnance du salut. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit un holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit une agréable odeur, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. » Genèse chapitre 8, versets 20 et 21. On voit clairement ici le rapport qui lie sacrifice et alliance relative à la nature. Sans nul doute, le premier est le fondement de la seconde. Notons surtout trois choses. Le nom Yahvé, l'autel et l'offrande consumée. Yahvé, c'est le nom d'alliance du Très-Haut, c'est le nom du Dieu de l'histoire, du salut et de la rédemption. C'est à lui que doivent s'élever les cœurs pieux, croyants. C'est en haut, vers le ciel, que doivent monter leur offrande et leur prière. Pour indiquer cette direction vers en haut, les autels étaient érigés en des lieux élevés. En fait, Dieu est partout présent et il ne saurait être limité par un au-dessus ou un en dessous. Psaume 139. Mais, dans le langage de l'adoration, le fait pour Dieu d'être au-delà, c'est-à-dire de l'autre côté, s'exprime symboliquement par des conceptions d'espace. Ce qui est spirituellement supérieur est défini comme étant plus haut. Pour la première fois dans la Sainte Bible, sont mentionnés un autel et un sacrifice désigné par l'hébreu « Ola » qui veut dire « ce qui monte ». Le sacrifice d'Abel était simplement appelé « mincha », c'est-à-dire « un don ». Genèse chapitre 4, verset 3, ça veut dire donner, présenter. Les animaux purs offerts ici, comme tous les sacrifices présentés depuis le début du monde, sont en réalité tournés vers le sacrifice de Golgotha. Ils sont préfiguration de l'agneau sans défaut et sans tache. Je répète, ils sont la préfiguration de l'agneau qui est sans défaut et sans tache. Premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 19 et 20, qui l'unique vrai fondement de toute préservation au salut du monde. Le lien qui unit les ordonnances relatives à la nature à celle du salut apparaît encore plus clairement dans le signe de l'Alliance qui est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, selon la Genèse, chapitre 9, versets 12 à 17, « Il n'y eut point d'arc-en-ciel avant le déluge. Celui-ci a dû amener des conditions atmosphériques assez nouvelles. Le Seigneur le déploie dans les nues pour être le témoin de sa divine fidélité. » Et cinquièmement, nous avons le signe de l'Alliance. L'arc-en-ciel est donc le rayon coloré du soleil traversant les nuages de la tempête. C'est le triomphe du soleil sur le déluge, selon le professeur Lang. Il est comme un pont jeté entre les mondes du dessus et ceux du dessous, attestant par sa septuple radiance l'alliance qui unit le Créateur à la création. Brillant sur un monde à peine délivré des éclairs déchirants, l'arc-en-ciel illumine la victoire de l'amour divin sur son ardente colère. Il illustre la volonté du céleste d'interpénétrer le terrestre. Tendu entre les cieux et la terre, il proclame la paix entre Dieu et l'homme. En ce qui embrasse le cercle entier de notre vision, il témoigne de l'universalité de l'Alliance de grâce. Et c'est le professeur Delitzsch qui le confirme. Il devient ainsi le type du salut et de la rédemption en général. Et c'est comme tel qu'il apparaît au trône même de Dieu. Ézéchiel, chapitre 1, verset 28, et Apocalypse, chapitre 4, verset 3. Mais alors que d'ici-bas, nous ne pouvons jamais apercevoir que la moitié de l'arc, ce en quoi il est un type de l'imperfection de notre expérience présente, de la rédemption. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 9 à 12, et notez la première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 2. Ensuite, un jour, nous verrons, croyez-moi, l'arc complet. L'arc complet entourant le trône de Dieu. Oui, et cela dans la perfection de la gloire, et nous louerons alors la fidélité du Dieu de l'Alliance. Sous cet angle, il symbolise la nature de notre délivrance éternel. Tout est donc symbolique dans l'arc-en-ciel, le moment de son apparition. Il apparaît avec le retour du soleil, Ézéchiel, chapitre 1, verset 28. Il y a la manière de son apparition. Il brille, véritable transfiguration des ténèbres en lumière. Genèse chapitre 9, verset 14. Nous avons sa septuple couleur. 7 étant le nombre de l'Alliance, voir Lévitique chapitre 16, verset 14, par exemple. Nous avons la prédominance du vert. Le vert émeraude est la couleur de la vie. Apocalypse 4, verset 3. Nous avons sa forme courbe, comme celle d'un pont. Elle illustre donc l'union du Créateur avec la création. Genèse chapitre 9, verset 12 à 17. Nous avons la largeur de l'horizon qu'il embrasse. Elle montre le caractère universel de l'alliance de grâce. Je répète, la largeur de l'horizon que l'arc-en-ciel embrasse, par là, elle nous montre le caractère universel de l'alliance que Yahvé l'Éternel a fait avec l'homme, l'alliance de grâce. Genèse chapitre 9, versets 12 et 15. Et nous avons sa forme circulaire. Lorsque vue du ciel, elle en fait le type de la divine perfection. Ézéchiel 1, chapitre 28 et Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 4, verset 3. Ensuite, nous avons le développement des nations dans l'histoire du salut. Dans le processus du salut, l'événement suivant, dont la signification est digne d'être relevée, fut la bénédiction de Noé sur Japhet et Sem, et sa malédiction sur Canaan, fils de Ham ou de Cham. Tandis que l'alliance de Dieu avec Noé était le fondement de l'histoire ultérieure de la nature, du monde et du salut, ces bénédictions et malédictions de Noé sur ses enfants déployaient le plan prophétique de cette histoire en ce qui concerne les nations. Premièrement, nous avons la malédiction ou absence de bénédiction pour les Chamites. Maudit soit Canaan, est-il dit, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Genèse chapitre 9, verset 25. À cause du péché honteux de Ham, versets 22 et 24, le groupe familial des Canaanites est abandonné à la malédiction en la personne de Canaan, le fils de Ham. Leur ancêtre est la race des Chamites en général, est privé de la bénédiction. L'histoire du monde a vraiment donné raison à cette prophétie. Les Canaanites furent assujettis aux Juifs, surtout en Palestine, par Josué. Notez Josué, chapitre 9, versets 21 à 27, et notez Juge, chapitre 1, versets 28 à 30, les versets 33 et 35, et par Salomon, un roi, chapitre 9, versets 20 et 21. En Syrie et dans le nord de l'Afrique, Phéniciens et Carthaginois ont dû subir les conquêtes perses, grecques et romaines. Les autres descendants de Ham, après une première prospérité, eurent pratiquement toujours à subir l'oppression. Deuxièmement, nous avons les Sémites, intermédiaires spirituels de la rédemption. il en fut autrement de Sem. Il avait reçu la promesse de la bénédiction la plus glorieuse. Béni soit Yahvé, le Dieu de Sem. Genèse chapitre 9, verset 26. Cette forme de bénédiction exprimée comme une louange au Dieu qui bénit, plutôt que comme une bénédiction proprement dite, s'explique par la haute teneur et l'immense portée de la promesse faite à Sem. Yahvé est le Dieu de Sem. Ses descendants seront les porteurs de la révélation spéciale de Dieu. Le Dieu de Japhet est Elohim, le Créateur. C'est celui qui maintient et règle l'univers. Genèse chapitre 9, verset 27. Le Dieu de Sem, c'est Yahvé, le Dieu de l'Alliance, le Rédempteur. Sem sera donc le vase et le canal de la grâce rédemptrice de Dieu. La promesse de salut se concentre donc en sa descendance. Ce salut sera porté à sa complétion en Christ, qui est le Rédempteur, qui est le fils de David, lui-même fils de Sem par Abraham. Saint Luc chapitre 3 verset 36. Le salut vient des Juifs, dira Jésus-Christ. Saint Jean chapitre 4 verset 22. Leur olivier et l'olivier franc, écrira également Saint Paul. Romains chapitre 11 verset 24 et Éphésiens chapitre 2 verset 11 jusqu'au verset 22. Et vous pouvez encore ajouter Romains chapitre 15 verset 27 et Galates chapitre 3 verset 9 et le verset 14. Mais en Christ, il y a la bénédiction de Sem qui deviendra la bonne nouvelle pour le monde entier. Et troisièmement, nous avons l'extension de l'influence politique et intellectuelle des Japhétites. La bénédiction de Japhet a donc trois aspects. Premièrement, que Dieu étende les possessions de Japhet, Genèse 9, verset 27, et là, Japhet, comme on le sait, est devenu le père des Mèdes. Genèse chapitre 10, verset 2, et des Grecs. Il fut aussi le père des Romains, le père des Perses, et d'une manière générale, de toutes les branches ethniques dites indo-européennes. La parole de Noé signifie que les peuples japhétiques devaient connaître une grande extension de leur influence politique et intellectuelle et que confirme tout le témoignage des prophètes de l'Ancien Testament. L'histoire du monde a donc d'abord semblé battre en brèche ce programme de la prophétie. Dans l'Orient ancien, ce ne sont pas les Japhétites, mais plutôt les Chamites et les Sémites qui furent pendant des dizaines de siècles les peuples civilisés directeurs. Dans la vallée du Nil régnaient les Égyptiens. Sur le Tigre et l'Euphrate, à Akkad, Shinéar, Babel et Ninive, Nimrod, le Cushite, lui aussi descendant de Ram, est devenu même le premier homme de l'histoire a fondé un empire mondial. Genèse chapitre 10, versets 8 à 12. Selon le texte pris littéralement, Nimrod fut non pas le constructeur de la ville de Babel, voir Genèse chapitre 11, mais il était le fondateur de l'empire babylonien en ce qu'il entendit, plutôt il étendit tout son pouvoir sur le nord, c'est-à-dire sur l'Assyrie, notez Genèse chapitre 10, versets 8 à 12, qui était la partie des cités déjà existantes de Babel. Et plus tard, lorsque les Chamites perdirent leur puissance, ce ne sont pas encore les Japhétites qui en sont devenus, on peut dire, héritiers immédiats, mais ce sont les Sémites, ainsi que l'atteste l'histoire de l'Écriture sainte. Dans la vallée du Nil, les Égyptiens ont gardé le gouvernement, selon Genèse chapitre 14, versets 1 et 4, et le verset 22 du chapitre 10, et en Mésopotamie, ils restaient aux Élamites, et dès le temps d'Amourabi aux Babyloniens, environ 1900 années, et cela avant Jésus-Christ. Plus tard, les Cassites ont pris le pouvoir en Babylone et les Hyksos en Égypte, jusqu'au pharaon Amasis, vers les 1600 avant Jésus-Christ. Dans le Proche-Orient, les Assyriens sont venus ensuite, environ 1750 à 612 avant Christ, puis les Babyloniens sous Nebuchadnezzar. Tous ceux-là étaient donc des Sémites ou des Chamites. Près de deux millénaires s'étaient ainsi écoulés depuis la prophétie de Noé vers 2350 avant Christ, sans que se soient réalisées complètement ses prédictions quant au peuple issu de lui. L'heure décisive des Japhétites sonna pourtant. Ils entrèrent dans l'arène avec une force victorieuse sous Cyrus, qui était le Perse. La Babylone sémitique tomba vers 538 avant Christ. Belshazzar, fils et représentant des Nabonites, a été tué et les Japhétites sont devenus les seigneurs de l'Orient. En cette nuit-là, fut tué Belshazzar, le roi des Chaldéens ou des Chaldéens. Ces paroles de Daniel le prophète, au chapitre 5, verset 30, en ce qu'elles résument, elles résument la conquête de Babylone et la victoire de Cyrus, le berger et le oint du Seigneur. Ésaïe, chapitre 45, verset 1, ainsi que le chapitre 44, verset 28, sur Belshazzar, le Sémite. On donc, tout cela a une portée hautement significative pour l'histoire du monde. L'écroulement décisif de la souveraineté mondiale amititico-sémite et l'établissement du gouvernement mondial chaphétique y sont inscrits. Quelques années plus tard, Cambyse, successeur de Cyrus, conquit l'Égypte et y établit la domination chaphétique vers 525 avant Christ. Certes, l'empire perse non plus ne fut pas permanent, mais en passant aux Grecs vers 333 avant Jésus-Christ, et cela aux Romains ensuite au second siècle avant Christ, ensuite aux Teutons en 476 après Christ, ou aux Latins, l'héritage mondial demeurait donc aux mains des Japhétites. L'influence exercée depuis lors par les descendants de Japhète a été considérable, non seulement par son étendue géographique et politique, mais encore par sa suprématie culturelle et scientifique. Tandis que la plus haute signification de la bénédiction de Sem consiste en la concentration de tous les pouvoirs spirituels et salvateurs, la bénédiction de Japhète inclut la plus large extension de tous les pouvoirs intellectuels. La bénédiction était pour l'un, lumière céleste, pour l'autre, et succès terrestre. La vigueur des peuples indo-européens est due à l'idéalisme de leur conception. Les Grecs la doivent à la recherche de la beauté et de la vérité, respectivement dans l'art et la philosophie, et les Romains à leur vénération de l'ordre et de la justice dans l'État. Ainsi sont-ils devenus les conducteurs intellectuels de l'humanité et les promoteurs de la plus haute culture. Deuxièmement, spirituellement aussi, Japhète avait à atteindre la bénédiction. C'est pourquoi il est dit qu'il habite dans les tentes de Sem, Genèse chapitre 9, verset 27. Habiter dans les tentes de Sem signifie avoir part à sa foi. Sem, venant d'être désigné comme canal de la révélation, le texte annonçait que les Japhétites allaient être reçus dans la communion du salut. Ainsi l'expliquaient déjà Jérôme, Calvin, Luther et quasi tous les pères de l'Église, exactement la même interprétation est donnée chez Lamm, Kreil et Delitzsch. Cette extension de la bénédiction de Sem aux non-juifs est là pour charnière la vision de l'apôtre Pierre à Joppé, Actes chapitre 10, verset 9 à 17. Quand est tombé à la croix le mur d'imitié, ou plutôt d'inimitié, qui séparait les hommes de Dieu, la barrière qui s'élevait entre juifs et païens, selon Éphésiens, chapitre 2, verset 14. La vision de saint Paul à Troas est un autre point tournant dans la même direction. Un homme de Macédoine l'appelle et il dit « Viens vers nous et secours-nous ». Notez Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 9 à 10. Qui peut dire quel cours aurait pris l'histoire du monde si en ce moment-là, le grand apôtre avait été appelé vers l'Est, vers l'Inde ou même la Chine, plutôt que vers l'Ouest? L'heure nocturne de Troas devenait l'heure de l'aube spirituelle des peuples de l'Ouest. Et troisièmement, et que Canaan soit son esclave, selon Genèse, la Genèse chapitre 9, verset 27. De gigantesques conflits ont marqué l'accomplissement de cette prophétie. Les Sidoniens et les Phéniciens sont parmi les descendants de Canaan. Hommes du Nord, de l'Antiquité, ils firent de la partie nord du littoral de la Palestine une région très peuplée, semblable à une ville ininterrompue. Déjà vers 1200 avant Christ, ils commencèrent à fonder des colonies, surtout à l'ouest de la Méditerranée, en partie par amour de l'aventure, en partie par intérêt pour les affaires. Ils furent donc rapidement florissants dans la ville aristocratique et capitaliste de Carthage, une nouvelle ville au nord de l'Afrique. Parallèlement, l'État romain se développait en Italie. La collision était évidemment inévitable. L'un ou l'autre devait être détruit. La première guerre fut la conquête de la Sicile par les Romains vers 264 à 241 avant Jésus-Christ. La seconde fut dramatique au plus haut degré vers 218 à 201 avant Christ, quand sous la conduite du génial et héroïque Hannibal, les Carthaginois furent parvenus en Italie à travers les Alpes et que par des brillantes victoires au Tessin en 218, à Cannes en 216, ils eurent détruit les armées romaines et furent attendus aux portes de Rome. Il put sembler que la vieille parole prophétique que Canaan soit son esclave, si brillamment accomplie par Cyrus en 538 avant Christ, était maintenant tout près d'être démentie par la victoire des Phéniciens sur les Romains. C'est alors qu'il y eut la rencontre décisive de Tsamma au sud de Carthage, 202 avant Christ, dont Publius Cornelius Scipion, le Romain, sortit vainqueur. Par la défaite des Carthaginois, la rivalité raciale et politique était définitivement tranchée. Avec Attila, la bataille des champs de Catalan, près de Troyes, ou de Troyes, 451, ni l'invasion arabe, en, on peut dire 711, jusqu'en 732, la victoire de Charles Martel près de Tours et Poitiers en 732, ni celle des Mongols, la horde dorée sous Genghis Khan, très fameux, on peut dire au XIIIe siècle, la fameuse bataille de Liegnitz en 1241, ou les guerres turques de la conquête de Constantinople en 1453, la bataille de Mohács en Hongrie en 1526, au siège de Vienne en 1683. L'empire mondial hamitique, commencé avec Nimrod, se termine avec Hannibal. La brillante victoire de Scipion a scellé d'une manière concluante l'œuvre de Cyrus, établissant la domination mondiale des Japhétites. Que Canaan soit son esclave. Ces mots étaient pour ainsi dire inscrits en lettres de sang dans la bataille de Tsamma. Pour terminer notre étude, car elle est un peu compliquée, on ne fera pas plus long, on continuera demain l'étude numéro 6, où nous parlerons de Babel et le jugement sur l'humanité. Donc, pour terminer cette étude, nous voyons que l'histoire du monde a ainsi justifié la prophétie d'une manière unique. Sa course suit exactement le plan déterminé. Dieu a son chemin. Noé fut son prophète concernant les peuples. Les noms de ses fils sont devenus des symboles et des signes pour l'avenir, principalement celui de Sem, le nom par la lignée de qui le nom et la nature du Rédempteur furent révélés, de même qu'en Jésus-Christ, le Seigneur, celui dont le nom est au-dessus de tous les noms, Philippiens chapitre 2, verset 9, et le nom du Père est maintenant glorifié pour toujours, Saint Jean chapitre 12, verset 28, et chapitre 17, verset 4, et vous pouvez ajouter Philippiens, chapitre 2, verset 9 à 11. Chers amis, nous allons maintenant prier, et comme c'est une étude beaucoup plus courte parce que trop difficile à assimiler d'un seul coup, je vous mettrai un peu de musique. Quand j'avais fondé une mission sur cassette, il y a plus de 50 ans. Évidemment, la qualité n'est pas très bonne, mais l'essentiel, c'est de pouvoir recevoir quelque chose dans votre âme et esprit qui nous fera du bien, qui vous fera du bien. Prions donc maintenant, si vous le voulez bien, ensemble. Prosterné devant toi, Seigneur, il nous est facile et doux de confesser ton saint nom. Mais en est-il ainsi quand nous sommes en présence du monde? Ne nous montrons-nous pas, et je m'y inclus, que ne nous montrons-nous pas au contraire plein d'une lâche et coupable timidité, et j'ai dit, je m'inclus à cela. S'il faut te donner gloire, s'il faut déclarer hautement que nous n'avons d'espérance qu'en Christ ton Fils bien-aimé, s'il faut porter son opprobre, nous nous trouvons sans force et sans courage. Le moindre sourire de raillerie ou de dédain, la moindre manifestation d'incrédulité nous épouvante et nous réduit au silence. Le désir d'obtenir la faveur du monde et sa bienveillance nous fait employer tous les moyens de lui plaire, et souvent même nous n'osons pas prononcer ton saint nom. Est-ce donc le monde qui adoucira pour nous l'effroi et les angoisses de la mort? Est-ce donc le monde qui nous jugera au dernier jour et dont la sentence nous livrera aux joies et aux peines éternelles? La sainte parole nous le déclare, ô Dieu, quiconque, as-tu dit, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est aux cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Être renié par toi, c'est recevoir l'arrêt de la condamnation, c'est être privé pour jamais, pour l'éternité, de ta présence. On te renie, Seigneur, simplement par notre silence, non moins que par nos actions et par nos paroles. Car se taire, lorsqu'il faudrait parler, est une infraction criminelle à notre devoir. Te confesser devant les hommes, c'est être toujours prêt à rendre compte avec douceur et respect de l'espérance qui est en soi. Mais l'apôtre saint Paul a dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Croyons aussi et nous parlerons avec courage. Assurons-nous en celui qui nous a promis de nous confesser au dernier jour et toute crainte s'éteindra en nous. Nos cœurs seront affermis, nos langues seront déliées et quand viendra l'heure de tout quitter ici-bas, nous entrerons et là, nous entendrons enfin le Sauveur Tout-Puissant et Miséricordieux qui nous dira du sein de sa gloire infinie. Vous, toi, vous m'avez confessé devant les hommes. Et maintenant venez, viens. Vous qui êtes bénis de mon Père, venez, entrez dans la joie de votre Seigneur. Ô Dieu, fortifie-nous, apprends-nous toi-même à vaincre la timidité envers le monde, ou plutôt la lâcheté qui nous empêche de glorifier ton Saint-Nom. Convertis-nous et nous parlerons alors comme tes enfants doivent le faire. Seigneur, je te demande pardon de mes propres manquements envers toi concernant le témoignage. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Je vous ai donc dit que je vous mets un peu de musique d'il y a plus de 50 ans. La qualité n'est naturellement pas excellente. À bientôt à nouveau, à demain, Dieu voulant, mes chers amis. Thank you.
by day and with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure, in the truth they want me to lovingly its heart of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I live not from sweet consolation offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, the moments fleeting, till I reach the promised land. Till I reach the promised.
trees. the voice of an angel, breathing a lesson unheard. Hope with a gentle persuasion whispers her comforting word. Darkness is over. Wait till the tempest is done. Hope for the sunshine tomorrow after the darkness is gone. Song.